On est l'été, on a pensé que, avec le conseil, que ce serait un temps de, pour lire les psaumes, pour les étudier, les repasser dans nos cœurs. Les psaumes sont une mine inépuisable de consolation, d'encouragement. Et on a pensé qu'on pourrait parcourir donc quelques psaumes pendant l'été. J'ai choisi un psaume, le psaume 88 pour aujourd'hui. Et c'est décidément pas un psaume particulièrement encourageant, mais j'ai appelé ce message au fond du trou. Donc si vous y êtes, on va essayer d'en sortir pendant l'été. Au fond du trou, le psaume 88, on va en faire la lecture pour commencer, et puis on va regarder tout ce qu'on peut apprendre encore de ce psaume. Psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte, cantique des mains, l'Ezrakite. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi. Et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis et tu as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes, ce sont les ténèbres. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti au fond du trou, mais le psalmiste ici touche tellement le fond qu'il n'a même plus l'espoir de refaire surface, de rester en vie. Eman, l'auteur de ce psaume, est un chantre célèbre. Il est mentionné à plusieurs reprises, notamment dans le livre des Chroniques. Et c'est un homme estimé pour ses qualités spirituelles. En 1 Chronique 25, verset 5, il est dit qu'il était voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Le mot ici pour voyant, c'est simplement un terme qui était utilisé pour désigner un prophète. Car il connaissait et il comprenait les voies et la volonté de Dieu. Mais là, il est au fond du trou. Il ne voit ni ne comprend plus rien. De nombreux psaumes commencent alors que le psalmiste, il est chargé, il est dans la peine, il est écrasé. Mais le psaume continue et puis il atteint à un moment un point d'inflexion où après prière, réflexion, eh bien le psalmiste trouve de l'espoir, trouve la paix dans le Seigneur. Regardez par exemple dans le psaume 86, juste à côté, quelques pages à côté, au verset 14, il est dit « Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leurs pensées sur toi. » Verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, voilà notre point d'inflexion, et en fidélité, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi, donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. » Voilà, on voit que la fin du psaume, il est plein de confiance. Mais il n'existe pas un tel point d'inflexion dans le psaume 88. Ce psaume est l'un des rares à se terminer sans aucune lumière, sans aucune expression d'espoir ni de confiance. En fait, les ténèbres ont envahi tout le psaume et ont littéralement le dernier mot, le dernier verset, le psaume s'achève ainsi. « Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, mes intimes. » Ce sont les ténèbres. Le premier verset, c'est la seule formule explicitement positive dans toute la prière quand il dit « Éternel Dieu de mon salut ». Après, tout ce qui suit, c'est un flot de ténèbres, de mort, de désespoir. Alors, comment un tel psaume s'est-il retrouvé dans le psautier, dans le recueil de cantiques de Dieu, de la Bible? Quels encouragements nous procure un tel psaume? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce psaume? La première pensée que j'aimerais développer avec vous, c'est que quelqu'un comprend ma détresse. Un jour ou l'autre, vous connaîtrez une situation similaire à celle d'Eman, où vous êtes au fond du trou, comme il dit dans la fosse, versets 5 et 7, où vous n'avez plus aucune force, versets 5, où vous êtes proche de mourir ou que vous désiriez mourir, versets 6. Ou que vous ne voyez pas d'issue à votre détresse, verset 7. Ou comme Éman, vous êtes submergé par les flots, verset 8. Vous avez l'impression de vous noyer dans tous les problèmes. Vous êtes abandonné de vos amis, verset 9. Où vos yeux sont rougis par les larmes. Où vous ne voyez plus de sens, vous ne comprenez plus le plan de Dieu, verset 11 à 13. Où vous n'entendez pas de réponse à vos prières, verset 14. Où tous vos pourquoi, verset 15, semblent se perdre dans l'immensité des cieux de l'univers. Souvenez-vous, quelqu'un est déjà passé par là. Et il a décrit votre détresse. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Quand on souffre, on a l'impression plus personne ne peut comprendre ce que je vis, plus personne ne peut avoir de la compassion. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Quelqu'un a déjà connu cela. Éman est un véritable croyant. C'est un homme pieux, un lévite, un homme qui est habitué à célébrer les bénédictions, les louanges de l'Éternel. Il était là lorsque David a transporté l'arche jusqu'à Jérusalem, au milieu des acclamations de la foule et des Lévites qui portaient l'arche. Il était là lorsque le fils de David, Salomon, avait construit le temple et a amené l'arche dans le temple. Et là, la gloire de Dieu, la Shekinah, a rempli tout le lieu, l'espace. Même que les propres chantres ont dû quitter, les Lévites ont dû quitter les lieux. Il était là. C'est un homme qui connaît Dieu, il connaît la grandeur, la majesté de Dieu. C'est quelqu'un en qui nous avons confiance, qui a vécu une douleur similaire et qui s'identifie à notre chagrin. C'est bizarre, mais ça nous console de savoir que le psalmiste, après avoir répandu son cœur devant Dieu, il termine sur une note ténébreuse. Parce que, au fond, on ne ressort pas toujours de nos moments de prière comme Moïse avec la face qui brille. Non, parfois, on reste juste écroulé dans notre détresse. La prière ne produit pas toujours des réponses rapides. Il y a des hommes et des femmes pieux dont la vie a été un long apprentissage de la patience. Le psaume 88 nous rappelle que nous possédons, qu'on peut posséder une foi réel, authentique, et connaître une telle détresse d'âme. Le psalmiste comprend. Athanase, un des pères de l'Église, a dit que quel que soit votre besoin particulier ou votre souci, vous trouverez dans les psaumes un ensemble de mots qui feront écho. Et partant de là, un remède à votre maladie. Et plus important encore, Dieu a placé le psaume 88 dans la Bible pour nous assurer que lui comprend. Non seulement Eman comprend, les hommes, d'autres hommes peuvent comprendre, mais Dieu comprend. Il sait comment les hommes parlent quand ils sont désespérés. Et c'est pour ça qu'il a placé ce psaume dans les Écritures. Il sait que toute souffrance soulève des questions sur le caractère de Dieu. C'est pour ça qu'il est en train de dire, mais pourquoi tu me réponds pas? Il a besoin de réponses. Eman, qui a l'habitude de chanter les louanges de Dieu, a des incompréhensions. Dans les versets 11 à 13, il dit, mais est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vais mourir, et puis c'est tout, quoi. Et où est ta gloire là-dedans? Il comprend pas. Ça signifie que Dieu n'est pas non plus indifférent à notre souffrance. Puisqu'il a consigné ce psaume dans sa parole pour qu'on puisse la lire. Au contraire, on sait qu'il s'en préoccupe. Il a lui-même connu la souffrance. Jésus a partagé nos souffrances. La pauvreté, l'exil, le rejet, le deuil, l'injustice, la faim, la soif, l'abandon de ses amis. Et la mort de la croix. Quand quelqu'un a souffert comme vous, il vous comprend avant même que vous ne lui ayez confié vos problèmes. Il vous comprend. Il parvient même à les décrire avec précision. Jésus comprend nos peines parce qu'il a souffert avant nous. Vous savez, quand on est terrassé par les douleurs ou des douleurs sans fin, il est difficile de croire que Dieu nous aime. Mais au fond, ce sont les souffrances de Jésus-Christ qui prouvent que Dieu nous aime. En regardant à Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, comme l'appelle Ésaïe, nous apprenons que la souffrance ici-bas et l'amour sont compatibles. On peut souffrir et être aimé de Dieu parfaitement. Et c'est Jésus qui nous révèle ça. Jésus a souffert plus que nous tous. Et pourtant, il est le bien-aimé du Père. Il est celui en qui le Père prend parfaitement plaisir. De ce fait, je peux souffrir et pourtant être aimé de Dieu. La croix nous prouve et nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Et c'est comme s'il nous disait, si j'ai crucifié mon Fils pour toi, crois-tu que je vais être mesquin aujourd'hui au point de refuser mon amour? Te refuser mon amour maintenant? Non, c'est pas possible. La deuxième pensée, c'est que quelqu'un contrôle tout cela. En fait, quand on souffre, la chose qui nous obsède, c'est, mais pour quelle raison? Pourquoi est-ce que je souffre? C'est la première chose qu'on voudrait connaître. Les causes, le pourquoi de notre souffrance. Et on cherche. On peut noter que dans ce passage, Eman, il se sent vraiment abandonné par Dieu. D'une certaine manière, il présume que Dieu est en colère contre lui, mais comme Job, il ne voit absolument pas pourquoi. On ne trouve non plus aucune trace de sentiment de culpabilité dans ce psaume. Il se sait pécheur, mais il ne lie pas sa détresse avec un péché. Et ça, c'est la première des choses à relever, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre le péché et un cœur qui souffre, un cœur rempli de tristesse. La preuve en est, c'est que notre Seigneur Jésus a souffert, il a été même saisi de tristesse et d'angoisse, et il a dit à ses disciples, « Je suis accablé de tristesse à en mourir !» Et pourtant, nous savons qu'il n'y avait aucun péché en lui. Et sa profonde dépression n'était donc pas liée à un quelconque péché. Alors, quelles sont les causes de la souffrance de notre pauvre Eman ici? Les causes ne sont pas clairement dévoilées dans notre passage. Ce que nous savons, c'est qu'elles sont diverses. Il dit au verset 4, « Mon âme est rassasiée de maux. » Je connais tellement de souffrances, il y a tellement de choses qui m'accablent. On aimerait souvent établir un diagnostic précis. C'est ça, et donc c'est si tu règles ça, tu souffres plus. Mais c'est un peu simpliste. Nos vies sont bien plus complexes que ça. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? On ne sait pas s'il est rongé par une maladie physique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il connaît un épuisement terrible. Il n'a plus de force physique, une totale asthénie. Il pense qu'il va mourir prochainement, versets 4 et 5. Et puis il est esselé, abandonné de ses amis. À deux reprises, hein, il dit cela au verset 9. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Verset 19, à nouveau, abandonné de ses amis. Il connaît aussi des souffrances anciennes. Regardez, verset 16, je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Il y a des choses de nos vies, de notre passé, qui peuvent nous accabler. On voit bien que les causes de la souffrance, elles peuvent être multiples, physiques, relationnelles, anciennes, spirituelles. On pourrait même ajouter que Satan y joue un rôle. On pourrait aussi ajouter que nous-mêmes, on joue un rôle. Notre péché, nos fautes, nos fausses croyances. Par exemple, en 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul évoque une écharpe dans la chair. Donc là, pour laquelle il va prier à trois reprises le Seigneur de l'en délivrer. Donc on sait qu'il a physiquement une douleur, quelque chose qui vraiment l'affaiblit, le fait souffrir. Mais il dit que c'est un ange de Satan qui l'a frappé. Donc c'est physique, mais c'est aussi le diable qui s'en mêle ici. Mais non seulement le diable, mais il dit que Dieu lui-même l'a fait à cause de son orgueil. Donc c'est aussi Dieu et c'est aussi Paul. Hein, il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair. Il m'a, c'est qui le « il » là? C'est la Bible, les théologiens appellent ça un passif divin. C'est-à-dire c'est Dieu qui s'est pas dévoilé. Donc plusieurs causes pour une seule épreuve. Et il y a aussi des causes qu'on ne connaît pas. Juste des causes qu'on ne connaît pas. Hein, vous vous souvenez de Job? Il ignore le rôle primordial de Satan dans son épreuve. Même après que Dieu l'ait secouru, il ne sait pas pourquoi il a souffert. Et il est possible que nous souffrions sans jamais connaître toutes les raisons de nos souffrances. Mais ce qui me frappe dans le psaume 88, c'est qu'Eman lie toutes ses afflictions à Dieu lui-même. Vous avez remarqué dans les versets 7, 8, 9, tu m'as jeté, il parle à Dieu là, tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Verset 17, tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence. Et verset 19, tu as éloigné de moi amis et compagnons. Tout est relié à Dieu. Ces souffrances, ce n'est pas un manque de chance, manque de bol. C'est pas un mauvais karma. C'est pas Satan qui a le dernier mot, c'est pas, au final. Ça n'est pas la fatalité. C'est Dieu. Et si le ton des paroles d'Eman est peut-être accusateur envers son Dieu, en tout cas, il reconnaît au fond que Dieu est au contrôle de sa vie, de chaque événement, et même il s'y soumet. En fait, la conviction qu'a le psalmiste, c'est que Dieu est souverain au-dessus de ses peines. Et cette conviction est la base de sa confiance envers Dieu, qui est aussi le Dieu de son salut. Dieu a toujours des raisons pour ce qu'il fait. Et il a toujours raison de faire ce qu'il fait. La raison humaine, elle est limitée, elle est obscurcie par son péché. Et c'est pour ça qu'on comprend pas tout ce que Dieu fait. Cela implique qu'on n'est pas capable de discerner les motifs qui poussent Dieu à agir, à moins que Dieu nous les révèle lui-même. L'un de nos enfants est né avec une malformation de la tuyauterie, disons. Et ça a nécessité une opération vers l'âge de 1 an et demi. En attendant de la naissance jusqu'à cette opération, et un peu après même, il a été sous antibiotiques. Les antibiotiques qu'on lui donnait, c'était des antibiotiques costauds. Et du coup, c'était pas des choses à la fraise, vous voyez. C'était des trucs assez difficiles à avaler. Et donc, tous les jours, on lui donnait ses antibiotiques. Et sans antibiotiques, il n'aurait probablement pas survécu. Donc, on lui a donné son traitement assez infect, mais salutaire. Nous avions de bonnes raisons de lui infliger ce supplice, chaque jour, même s'il ne comprenait pas. Il avalait ma femme, avec toute sa délicatesse, lui enfournait cette seringue dans la bouche et lui envoyait ça au plus profond. Et lui, il faisait... Mais nous savions ce que nous faisions. Lui ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que lui avait le droit à ça, à ce service? Et ses frères et sœurs y échappaient. Non. Dieu sait. Il a ses raisons, même si nous ne les comprenons pas. Si Dieu a apporté des troubles dans la vie d'Eman, alors il est aussi raisonnable de conclure que Dieu peut aussi le délivrer de ses troubles. Et ça, c'est une belle porte d'espérance pour nous. Si Dieu amène des épreuves dans nos vies, il peut aussi les enlever, ou en tout cas, assurément, nous y rejoindre et se tenir là, à nos côtés. C'est que Dieu sait ce qu'il fait. Nous savons par ailleurs que Dieu est bon, il est plein d'amour, qu'il est tout puissant, il est parfait en sagesse. Le psaume 86, à nouveau, il dit au verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes !» Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Dieu est bon, il est infiniment sage. Aussi, ce qu'il accomplit, ce qu'il permet dans nos vies, aussi difficile que cela puisse être, servira à notre bien. Sinon, ici-bas, assurément, dans l'éternité. Ce qui nous amène à notre troisième point, dernier. Quelqu'un à qui parler. La seule chose que le psalmiste fait ici, c'est qu'il crie à Dieu jour et nuit. Il parle à Dieu de son désespoir. Je relis verset 2, « Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi », verset 3. « Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications », verset 10. « Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi mes mains », verset 14. « Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi ». Vous avez remarqué, il ne met pas un instant en doute l'existence de Dieu. Il ne met pas en doute un seul instant la parfaite justice de Dieu. Il souffre, il pleure, il ne comprend pas, mais il répand son âme devant Dieu. Si vous souffrez, si vous rencontrez des incompréhensions, ne tournez pas le dos à Dieu, mais allez vers lui. Et répandez vos cœurs devant lui. De ce point de vue, la prière d'Eman dans le psaume 88 est vraiment un exemple, un appui pour toute âme qui est découragée. La Bible, elle ne nous aide pas toujours à identifier les causes de nos souffrances. mais elle dirige nos pensées vers Dieu qui sait tout et en qui nous pouvons avoir entière confiance. Ed Welch, psychologue et théologien, a écrit « Le fait de se tourner vers Dieu et de lui remettre les mystères inhérents à la souffrance constitue en quelque sorte la réponse au problème de la souffrance. » Dans la souffrance, vous pouvez vous décider d'appeler Dieu au secours ou de ne pas avoir recours à lui. En Osée, au chapitre 7 et au verset 14, il est dit, c'est Dieu qui parle, Dieu dénonce l'attitude du peuple, il leur dit, « Ils ne crient pas à moi du fond du cœur, mais ils gémissent sur leur couche. » Vous voyez la chose, il dit, mais au lieu de crier à moi, ils gémissent. Dieu nous dit, mais criez à moi. Et c'est ce que Eman fait, peut-être dans une certaine véhémence. Hein. Il crie à Dieu, il crie sa douleur, il crie son désespoir. Il dit son incompréhension, il parle à Dieu, il lui reproche son silence même. Mais il crie à Dieu. Il ne répand pas son amertume aux oreilles des autres, mais à Dieu lui-même. Oh, voilà ce que nous enseigne ce psaume. Mais peut-être vous vous dites, et moi, dans ma détresse, dans ma souffrance, je n'ai pas de mots pour Dieu. Je n'ai même pas envie de lui parler. Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Quel mot je vais employer? Qu'est-ce que je vais lui dire? Les mots vous manquent? Eh bien, sachez que les psaumes vous prêtent des mots pour que nous parlions à Dieu dans la diversité de nos épreuves. Quand nous ne savons que dire, c'est lui qui met des paroles dans notre bouche. Il est en train de nous apprendre à nous exprimer. Combien de fois j'ai lu les psaumes en disant, mais, ah ben voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça ma souffrance, c'est ça ma détresse. Et c'est ça le propre des psaumes. Les psaumes nous fortifient. Les psaumes nous prêtent des mots. Par les psaumes, Dieu nous enseigne à nous exprimer devant lui, devant sa face. Et je trouve que de savoir ça, ça rend Dieu tellement proche de moi. Si, il est en train de dire, tu pourrais me dire ça. Vous imaginez ce que ça représente? Ça veut dire qu'il est là, avec moi, dans ma souffrance, dans ma détresse. Je peux tout lui dire. C'est probablement l'un des principaux objectifs du livre des psaumes. Tim Keller a écrit dans l'introduction à son livre « Les psaumes de Jésus ». Il écrit ceci, « Les psaumes ont été rédigés pour être priés, récités et chantés. » Pour être mis en pratique et pas seulement lu, nous sommes en quelque sorte appelés à les intégrer dans nos prières, ou plutôt à y insérer nos prières et à nous approcher du Seigneur de cette manière. Et en faisant ça, nos cœurs découvrent Dieu, non pas comme nous souhaiterions ou que nous désirions qu'il soit, mais tel qu'il est réellement et tel qu'il se révèle à nos cœurs dans les psaumes. Le portrait qui est brossé de Dieu dans les psaumes est d'une telle richesse. Il dépasse tout ce que les hommes peuvent inventer. Sa sainteté, sa sagesse, la crainte qu'il inspire, la tendresse de son amour dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Alors êtes-vous un ami de Dieu par beau temps? Vous lui faites confiance quand tout va bien, mais vous témoignez de la méfiance à son égard, ou vous, carrément vous détournez de lui quand les choses se gâtent. Se détourner de Dieu n'offre aucune consolation. Se détourner de Dieu n'offre aucun sens à nos épreuves. Se détourner de Dieu n'offre aucune issue à nos épreuves. Le psaume 88 nous révèle que Eman ne s'est pas détourné de Dieu. lorsque plus rien n'allait dans sa vie. Il a continué de crier à lui, même lorsque Dieu ne semblait pas l'écouter ou lui répondre. Il a continué à lui faire confiance, ce qui est le moyen le plus sûr de traverser victorieusement l'épreuve. Le psaume 88, comme la croix de Jésus-Christ, nous prévient que la vie ne sera pas facile. Si Jésus est le maître, s'il a souffert, alors nous aussi, nous aurons part à la souffrance ici-bas. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Christ a souffert, nous allons souffrir. Toutefois, la mort n'a pas le dernier mot. Elle fera place à la gloire et à la joie pour l'éternité. Pour peu qu'on puisse dire comme Eman, Éternel, Dieu de mon salut. Si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour être sauvés, nous savons que la victoire nous est acquise. Vous avez vu comment se termine le psaume, verset 19. J'ai mis la traduction de second 21 parce que je pense qu'elle est plus proche littéralement. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes, ce sont les ténèbres. Deux choses qui terminent le psaume, l'abandon et les ténèbres. Et si vous êtes un lecteur du Nouveau Testament, abandon et ténèbres, ça résonne dans votre cœur. Vous savez que ça vous rappelle ce point crucial de l'Évangile, au moment où Christ crucifié est confronté aux ténèbres les plus épaisses de la colère de Dieu. Au chapitre 27, versets 45 et 46 de Matthieu, il dit « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, de midi jusqu'à 13h, à 15h, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puisqu'il a lui-même enduré l'abandon que nous méritions, nous savons que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est là avec nous. Même lorsque nous ne ressentons pas du tout sa présence, il est là. Et voilà comment ce psaume pourrait nous encourager vraiment. Nous savons qu'il a connu cela pour nous, l'abandon et les ténèbres à notre place. Nous pouvons espérer en lui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que nous savons, au travers de ta parole, que tu comprends notre misère. Tu t'es incarné. Tu as connu toutes les souffrances que nous pouvions connaître et bien d'autres encore. De sorte qu'il n'y a aucun chemin par lequel nous pourrions passer, par lequel tu n'as pas toi-même fréquenté. C'est pourquoi on peut répandre notre cœur avec confiance devant toi. On sait aussi, Seigneur, que tu contrôles toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à ton regard, il n'y a rien qui échappe à ta volonté. Et Seigneur, nous voulons nous simplement apprendre dans les moments où on ne comprend pas. On veut apprendre à te faire confiance. Nous savons au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous savons que tu nous as aimés d'un amour suprême. Tu as connu l'abandon et les ténèbres pour que nous ne le connaissions pas pour l'éternité. Et Seigneur, si nous devions les connaître ici-bas, Seigneur, nous voulons juste apprendre à te ressembler davantage, à nous laisser façonner par le Dieu qui sait toutes choses infiniment mieux que nous et qui veut notre bien, qui le poursuit inlassablement et qui veut aussi partager sa gloire avec nous pour l'éternité. Que ton nom soit élevé. Soutiens chaque frère et sœur ici, chaque personne qui peut connaître des moments de détresse, d'angoisse, d'abandon, Seigneur, de peine, Tu sais toutes choses Je prie pour que ce temps de lecture des psaumes puisse mettre dans nos bouches, Seigneur, les mots que nous voudrions t'adresser. Parce que c'est dans cette relation que tu veux encore nous secourir et nous transformer. Tout cela pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.